Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
On the road again. Nous nous trouvons avec Antiquissimo sur les rives du Rhône. À observer ce qui se passe en dessous, à voir ces plongeurs qui, depuis fin août jusque début octobre, ont fouillé à nouveau pour répertorier, étudier, ramener les objets depuis quelques épaves dont nous allons parler durant deux émissions. Tout d'abord, on va écouter la directrice du musée bleu, enfin le musée départemental Art Lantique, à savoir Romy Wisch, qui va nous expliquer vraiment l'originalité de ce département d'Art Lantique, de ce musée pardon, départemental Art Lantique, auquel en 2019 l'UNESCO a accordé le label « Meilleure pratique du patrimoine culturel subaquatique ». Pour son opération Arles Rhône 3, ça c'était effectivement il y a quelques années. Et puis donc cette année, les fouilles ont repris et elles ne sont pas prêtes de s'arrêter puisque la campagne va se prolonger sur plusieurs années sans doute. Donc musée exceptionnel, la directrice nous en parle. Donc pour commencer cette investigation autour des fouilles subaquatiques en Arles, je demande à Romy, directrice du musée bleu, je l'appelle comme ça, de nous expliquer en quoi ce musée bleu qu'on adore est tout à fait unique en France pour justement la plongée et toutes les fouilles subaquatiques.
Merci beaucoup, oui. Alors il est vraiment unique parce qu'on est probablement le seul musée en France à avoir vraiment toute la chaîne opératoire depuis la découverte jusqu'à la présentation au musée. C'est-à-dire qu'on a un service d'archéologie subaquatique, ce qui est extrêmement rare pour un musée. Je le répète parce que ça vaut le coup d'être dit. Et ce qui fait qu'on peut vraiment présenter au public en fait toute la chaîne opératoire depuis le tout début avec les archéologues qui présentent tout, donc tous les jeudis on est sur la péniche et les archéologues présentent un petit peu leur travail et disent ce qu'ils ont trouvé pendant la semaine, et c'est bien sûr après retransmis sur les réseaux sociaux, mais ça permet en fait de tenir le public informé. C'est vraiment la différence entre un musée qui fait de la recherche, on va dire, et le CNRS.
Oui.
C'est-à-dire que nous, en fait, on a cette vocation vraiment de transmission au public. Ce qui nous permet justement de transmettre ces informations, alors de vulgariser, comme je disais, c'est pas un mot méchant du tout, au contraire, ça nous permet de faire comprendre des problèmes qui sont parfois, alors, pas particulièrement compliqués, mais inconnu du public, tout simplement, parce que normalement, la vocation des chercheurs, bien sûr, elle est de transmettre jusqu'à un certain point, mais c'est surtout d'avancer la recherche,
oui.
Alors que nous, on est vraiment dans une perspective complètement différente.
Donc ici, on a tout sur place, on trouve, on exploite, on commente, on étudie, puis ensuite, dans le musée, on le propose, et ce qui fait qu'effectivement, la chaîne, elle est ininterrompue.
Alors la chaîne, elle est ininterrompue, et c'est vraiment très vertueux comme proposition, puisqu'on voit souvent après ce public, surtout le public arlésien, mais pas que, le public bien au-delà, ceux qui étaient là quand ils ont vu les objets sortir du Rhône ou sortir de terre ou peu importe, mais qui après viennent voir la restauration et après ils reviennent au musée, et finalement c'est un peu eux aussi qui ont partagé la découverte, c'est leur patrimoine, et c'est quelque chose que les musées ont beaucoup de mal à faire, c'est vraiment créer le lien entre, on va dire, leurs visiteurs et le patrimoine, parce que en général il y a 2000 ans qui les séparent, donc c'est toujours un petit peu difficile, mais cette découverte et le fait que le public soit là dès le départ, en fait, ça permet de briser cet espace-temps et de créer une proximité en fait entre les objets et son public, et ça c'est vraiment fantastique.
Ben merci beaucoup. Moi, j'attends avec impatience que la chaussure qui a été trouvée dans l'eau soit exposée dans le mur, dans le musée.
Ben nous aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Appel à tous les octonautes.
Quasi, Besson,
Chelinda,
Cassie,
Professeur,
Twig, Nav.
Quasi, active la minute sous-marine.
Minute sous-marine. Minute sous-marine.
Minute sous-marine.
Action.
L'éponge de mer ne vit pas seule, oh non. Son corps fait une belle maison. De petites bestioles y vivent sans
minute
peur.
Sous-marine. minute sous-marine.
Il y a de la place et de la nourriture à l'intérieur.
Minute sous-marine, minute sous-marine.
Quand on vit de cette manière, ça s'appelle du commensalisme. Personne n'y perd.
C'est vrai. Les éponges de mer, les éponges de mer. Minute sous-marine, minute sous-marine.
Pour chaque mission, on assure Octonautes en route pour une nouvelle aventure.
Il est temps maintenant de s'embarquer sur un frêle et petit Zodiac pour approcher des endroits où se déroulèrent pendant 6 semaines, c'est presque terminé, pas tout à fait, des fouilles subaquatiques qui étaient prévues de longue date dans le Rhône pour poursuivre le travail déjà accompli. Mais à 2 reprises, ces fouilles avaient dû être différées à cause du mauvais temps, à cause de l'opacité du fleuve qui ne permettait plus de voir grand-chose. Et enfin, donc en cette année 2025, les fouilles programmées vont avoir lieu sur principalement 2 épaves qui vont être ensuite explorer, situer, répertorier. On écoute David Jaoui depuis ce petit Zodiac dont vous entendrez le moteur vrombir sans doute, nous expliquer les tonnes d'amphores qui sont trouvées et leur utilisation dans ce Rhône antique.
Peut-être l'amphore, elle sert uniquement au transport maritime. Elles sont imbriquées dans le fond des carènes des bateaux. Elles sont le s'équilibre entre elles. Il y a des sarments, des fois on a trouvé des sarments de vigne pour les protéger à l'intérieur des amphores. Une fois qu'elles arrivent à destination, on transvase le contenu des amphores dans d'autres contenants plus petits et l'amphore, elle est jetée. C'est-à-dire qu'il y a des exemples de recyclage, mais le plus souvent, l'amphore est jetée. Donc on appelle ça une zone de rupture de charge. C'est-à-dire que vous avez à Rome, par exemple, le Monte Testaccio, qu'on peut traduire par le Monte des Tessons. C'est une montagne qui résulte de l'accumulation de 50 millions d'amphores à huile. Ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a des amphores à huile, on a des amphores à vin, on a des amphores à sauce et salaison de poisson, on a des amphores à fruits, on a tout. Et l'avantage du Rhône, outre le fait que, a priori, la plongée loisir, c'est interdit, donc du coup, tout est conservé. L'avantage aussi, c'est qu'on a des inscriptions peintes qui sont conservées sur les amphores. Ces inscriptions, ce sont des étiquettes commerciales. On a le nom du produit, les qualités du produit, le poids, le nom du négociant. Des fois même, ils vantent la qualité de leur produit en mettant Excel, excellence, donc un produit excellent. Donc ça, tout est conservé dans le Rhône. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que tout ça, on le retrouve en rive droite. En rive gauche, on n'a pratiquement rien. Donc on avait des hangars, puisque les amphores, on pouvait les stocker. Et ensuite, ça permettait d'affréter des bateaux pour les armer et pour les charger avec des amphores ou d'autres contenants plus petits. Donc c'est vrai que c'est une chance, parce que le Rhône a changé en amont d'Arles. Au niveau du delta, il a changé. Mais dans la traversée d'Arles, tout est resté en place. Et ça, c'est un peu le miracle d'Arles, d'avoir tout ce matériel, toute cette zone de rupture de charge, les bateaux. On a la dotation de bord des marins, on a des vases marchandises qui ont été cassés, ébréchés pendant le transport, et arrivés, ils jettent tout ce qui a été cassé, on parle de contrôle qualité. Ça, on le retrouve au fond de l'eau. On a retrouvé des caisses de marchandises, on a retrouvé des bols de sigillés, c'était produit dans l'Aveyron, on retrouve des mêmes diamètres cassés, même décorateurs, dans le même carré de fouille. Donc ça montre bien que la pile s'est cassée pendant le transport. À l'arrivée, assez logiquement, ils jettent tout ce qui a été cassé. Ben, du coup, on peut repartir en direction d'Arles-Rhône-Caen. Donc ça, c'est une zone qui a été assez peu investie.
Et pardon, au plus profond, il y a combien?
Dans le tournant, on peut avoir jusqu'à 23 mètres.
D'accord.
C'est-à-dire c'est la force du courant qui va araser, qui va creuser les couches. Moi, au max, je suis allé à 14 mètres. Et c'était ce que je vous décrivais. J'ai suivi la pente jusqu'à trouver la rupture, le chenal qui est lisse comme un sol en béton. Et voilà, ça a été le max, ça a été 14. Mais on sait par des bathymétries que dans le tournant, on peut avoir jusqu'à 23 mètres de profondeur. C'est vrai qu'il y a des objets, on n'arrive pas à expliquer leur présence, comme le buste présumé de Jules César, le Neptune, le captif en bronze. Est-ce que c'était des transports d'œuvres d'art? Est-ce que des élingues ont pété? Est-ce qu'il s'agit d'un four à chaud où ces objets auraient été fondus? Voilà. On a plein d'hypothèses.
Ou de la contrebande?
On n'en a aucune idée. Pourquoi pas? Par contre, les amphores, on sait. Et c'est vrai qu'au moment de la construction de la ville d'art, le 1er siècle avant, on avait des grandes quantités d'amphores à vin qui arrivaient. On n'en retrouve pas dans l'Europe parce que ces dernières ont été systématiquement recyclées. C'est-à-dire qu'ils les ont plantées en terre, ils ont créé un champ d'amphores. Imaginez un champ d'amphores planté dans la terre. Par-dessus, ils ont remis des amphores. C'est une façon de surélever les terres pour protéger la ville d'Arles des crues et en cas de crue pour que le terrain puisse être assaini, c'est-à-dire absorber l'eau des crues. Donc c'était assez ingénieux et dès le moment où ils ont construit ça, après, ils ont tout jeté dans l'Europe. Alors ils sont pas fous, hein. C'est-à-dire qu'on peut se dire ben, ça risque d'engraver la navigation. Ça... En fait, la largeur était à peu près similaire à celle-ci et la profondeur aussi. Donc du coup, bateau à couple, ils pouvaient faire une chaîne et jeter effectivement dans le Rhône sans endommager la navigation. C'est pour ça qu'il est un peu illusoire, si vous voulez, de travailler sur ce dépotoir portuaire dans la totalité. Le plus simple, c'est de travailler sur les épaves. Parce que les épaves, elles reposent sur le dépotoir et elles sont scellées par ce dernier. Donc en travaillant sur une épave, on travaille également sur le dépotoir. Et dans les objets qu'on trouve le plus souvent, c'est vrai qu'on a en dehors des amphores, on a toute la dotation de bord des marins, des conserves de bord, on a toutes ces vases marchandises qui étaient très fragiles et avaient beaucoup de casse. Mais a priori, ça valait le coup quand même de tenter d'en transporter. Ils mettaient les amphores au-dessus, ils mettaient ces céramiques fines qui viennent de l'Aveyron, qui viennent aussi de Bétique. On a plein de petits bols en paroi fine avec des décors à la barbotine. On en a beaucoup. Et on peut avoir aussi des dépôts cultuels. On va par exemple avoir une coupe en sigillé avec l'inscription gravée Baco. Baco, c'est Bacchus. Au datif, ça veut dire à Bacchus. Donc on sait par les textes, dans les métamorphoses d'Apulée, qu'on avait des rites propiatoires avant de prendre la mer.
Nous continuons notre petit tour de Zodiac et vous entendez certainement vrombir un peu trop à mon goût le moteur de ce petit engin. Nous approchons donc de l'endroit qu'on appelle le dépotoir car dans ces fouilles, il était question d'explorer principalement deux épaves, en gros une barque de 5 mètres et un bateau à fond plat de 20 mètres et à l'extrémité de l'un d'entre eux, de tomber sur un dépotoir qui en fait a révélé un immense trésor. On écoute toujours David Jaoui.
Ici par exemple, on a trouvé trois sarcophages. Exactement, on a trouvé trois sarcophages à côté de la pile du pont. Donc là, comme il était côté chenal, si vous voulez, le bateau a été disloqué. La force du courant a désintégré le bateau. Il restait ces trois sarcophages, dont un a été prélevé et présenté au musée. Donc ça, c'est quand même une épave. Même si on n'a pas le bois de l'épave, ces trois sarcophages, ils n'ont pas été jetés du pont de la voie rapide. Hein. Ils se trouvaient dans un bateau qui a été désintégré par le courant. Toute cette zone, c'est un dépotoir portuaire. C'est absolument monstrueux.
Rappelez-moi, dépotoir, c'est là où il y a l'accumulation de...
D'amphores. Qui arrivent, on les transvase, on vide le contenu, et une fois qu'on les a vidés, on les jette. Et jusqu'à présent, on pensait que ce dépotoir s'arrêtait à peu près juste après la pile du pont. Vous voyez, à peu près à ce niveau, on avait travaillé là. Et dans ce secteur, là où vous avez les ducs d'Albe, c'est l'endroit où s'amarrent les péniches, on avait eu des opérations que je pourrais qualifier de ramassage de surface. Il y a des amphores de partout. Là, l'idée, c'était de faire un vrai sondage en profondeur pour savoir si elles étaient imbriquées, qu'on avait effectivement à nouveau une zone de rupture de charge. Et ça a été le cas. On avait au moins deux niveaux d'amphores imbriqués les unes au-dessus des autres, avec des conserves de bord des marins, avec ce qui appartient, on va dire, à la dotation de bord. Et ce qui veut dire que les bateaux du centre-ville s'amarraient au moins jusque-là. Et à mon avis, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que l'année prochaine, on fera un sondage encore plus loin pour connaître les limites de cette zone de rupture de charge. Donc là, il faut imaginer des tas de bateaux à couple obligés de se garer de plus en plus loin, tellement que l'intensité de l'activité commerciale était importante.
Et ce serait à quelle période ça,
on est entre 50 et 100 après Jésus-Christ.
D'accord. Là, ce serait le summum de l'activité du...
Ouais, carrément.
Après.
Et là, le petit bateau que va vous présenter Pierre se situe ici, perpendiculairement à la berge. On a 4 mètres de profondeur seulement. Et celui-ci va faire l'objet d'une étude exhaustive. On a pu le fouiller intégralement, on a pu faire une photogrammétrie. Vous le verrez tout à l'heure en 3 dimensions. Et c'est dans cette zone qu'on a pu déployer une prospection où on a trouvé des madriers de 17 mètres. Alors, on les a repérés. On a fait appel à un topographe pour référencer les points, pour les placer, pour les positionner. Maintenant, est-ce que ces madriers sont antiques ? On ne sait pas. Pour l'instant, on a fait des prélèvements et on va le dater au carbone 14. Le carbone 14, c'est pas très précis. En revanche, ça va nous dire si c'est antique ou si ça ne l'est pas. Et dans cette zone du sondage, on a trouvé ce fameux élément de membrure de bateau antique. Grâce à Pierre Poveda, grâce à la photogrammétrie réalisée par Lionel, on a pu constater que c'était un bateau maritime de pratiquement 20 mètres de long. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que toutes ces conserves de bord qui viennent d'Italie, de Bétique, supposent qu'un bateau a pu les amener jusqu'ici, donc franchir le delta. Et effectivement, là, on en a eu la preuve en découvrant ce simple petit morceau de bois. Avec la reconstitution 3D, avec le travail de Pierre, on a un bateau maritime de 20 mètres. Alors, ça peut paraître grand, mais son architecture permettait d'avoir une zone, un tirant d'eau, c'est-à-dire un espace entre le fond et la coque, de moins d'un mètre 20. Entre 1,50 m et 1,20 m. Parce qu'au delta, tous les sédiments qui sont charriés par le Rhône se déposent et forment des cordons alluvionnaires, c'est-à-dire des formes de montagnes sous-marines. Et les épaves, si elles ont un tirant d'eau important, eh bien, elles percutent le cordon et en général, elles s'échouent sur le deuxième cordon alluvionnaire, parce qu'elles se forment par des bancs parallèles. Ce qui est le cas encore aujourd'hui. On a exactement la même chose aujourd'hui. Et les péniches actuelles ont un tirant d'eau très faible pour arriver évidemment à naviguer dans le fleuve. Donc il faut retenir, mais ce sera encore plus clair avec Sabrina et Pierre, c'est que l'architecture d'un bateau dépend de son espace de navigation. Et l'avantage d'Arles, un de plus, c'est qu'on est dans un espace fluvio-maritime, avec des bateaux de mer, avec des bateaux de navigation intérieure, et avec des bateaux qui pouvaient naviguer dans les deux espaces. Donc on a toute une famille de bateaux en lien avec le dépotoir, en lien avec la datation, en lien aussi avec des conditions de conservation exceptionnelles. Vous n'avez qu'à voir le chaland en Ronde 3, considéré comme le bateau le mieux conservé de toute l'Antiquité romaine. Donc, ce qu'il y a de fou, c'est que nous, on habite à La Roquette, le musée est là, et là, on a un terrain de jeu pour des centaines, des milliers d'années. Et jamais on n'arrivera jusqu'au bout, bien évidemment. Donc là, on s'est consacré aux épaves, ce qui nous permet donc d'appréhender ces architectures spécifiques à cet espace de navigation. Et en même temps, on a le dépotoir portuaire. Donc du coup, on a des données sur le commerce et on n'est pas à l'abri d'une découverte exceptionnelle. Ça a été le cas des statues, là c'est le cas du trésor monétaire. Et c'est pas fini parce qu'on a affleuré la couche. L'année prochaine, on va y revenir. Et je pense qu'on va sortir encore de nombreuses monnaies. Et j'espère trouver le contenant. Je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de peau. Pourquoi pas un coffre. On a trouvé dans ce secteur un coffre. Magnifique.
Mais quel genre de coffre? Quel contenant?
Un coffre dans l'imaginaire du coffre à trésor.
Le coffre de pirates.
De pirates, assez petit. La serrure avait été forcée, on n'arrivait pas à l'ouvrir. Il y avait quelque chose à l'intérieur.
Et le bois n'est pas abîmé?
Comment?
Le bois n'est pas abîmé?
Ah non. Et c'est ça, le Rhône conserve le bois, se gorge d'eau et se conserve. Donc on a tous les matériaux qui se conservent dans le Rhône. Là, on a trouvé une petite semelle d'enfant clouté avec des élévations, ce qui est plutôt rare. On a tout qui se conserve dans le Rhône. Les inscriptions, on a tout. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable de travailler sur un tel matériel.
Là, il ne faut pas qu'on précise où on
est. Oui, il n'y a pas de problème.
Je veux dire qu'on est...
Il n'y a pas de problème parce que vous savez quoi,
nous, musée, quoi.
La première année, en 2023, on a essayé d'expertiser les épaves. On avait le point GPS, mais on a mis du temps à les retrouver. Ouais. Donc des gens qui voudraient, alors déjà plonger dans l'Europe, tu peux vous assurer que les gens ils téléphonent à la police. Déjà nous, ils téléphonent au musée en disant il y a des plongeurs, je dis oui mais c'est moi. Donc les Arlésiens sont soucieux de leur patrimoine, ils ont quand même un regard protecteur. Après, on n'est pas à l'abri de mecs qui plongent la nuit, hein. C'est arrivé. Mais en tout cas, même s'ils connaissent à peu près l'endroit, avant qu'ils la trouvent, que machin, tout ça, c'est...
Il y avait déjà une Caliga qui avait été trouvée, non ? Une Caliga, une chaussure...
Oui, tout à fait.
Et elle est au musée, celle-ci ?
Celle-ci, elle est au musée, en restauration, on la présentera. Et on en a quelques-unes, on se met le côté. Et le cuir, il est... Enfin, si, on ne pourra pas vous la montrer, mais il est comme neuf. Enfin, après, il est comme neuf. Hein. Si vous le laissez dehors, ça se dégrade, ça se déforme, ça sèche, ça part en poussière. À nous de payer des restaurateurs pour stabiliser, pour conserver. Mais c'est vrai que quand on le sort de l'eau, le cuir, il est comme neuf. C'est vraiment assez impressionnant. Et même les céramiques. On a des patines. C'est assez incroyable.
Juste sur le trésor monétaire, là, j'y reviens. Est-ce que cette découverte, on peut la comparer en termes d'importance à, enfin, à quoi justement on peut la comparer
à la découverte des pyramides.
Là il y a eu un gros silence. Hein.
Le buste,
le chalin.
Parce qu'il y a eu d'autres trésors de monnaie.
C'est très compliqué. Vous voyez, moi par exemple, on a trouvé une petite cruche, toute cassée. Il y avait deux lignes d'inscription. J'ai travaillé 4 ans dessus avec différents chercheurs. En fait, c'est un échantillon commercial de grands vins des Monts Albens d'Italie, de 1500 hectolitres. On a retrouvé le personnage, puisqu'on a identifié son statut social, l'espace géographique. Ça, c'est une enquête de malade qui apporte des vraies données. On ne savait même pas que ça existait. Donc ça, pour moi, c'est presque dans le top 1, vous voulez. Quoi. Maintenant, d'un point de vue muséographique, si on l'explique, les gens sont passionnés, parce que l'enquête est passionnante. Après, d'un point de vue esthétique, on va dire, mais on retourne un peu au cliché de l'archéologue du 19e siècle, on a des très beaux objets. Le captif en bronze est sublimissime. Est-ce qu'on le place en top 1? En top 2, je ne sais pas. Ce trésor monétaire, il y en a des trésors monétaires, il n'y en a pas 50. Par contre, l'étude risque de nous montrer que ce trésor monétaire est exceptionnel. Donc voilà, ça s'inscrit dans le temps, ça s'inscrit dans l'étude. Là, pour le coup, franchement, on est très contents.
Il a été découvert quand exactement?
Il a été découvert lors de notre première semaine sur Round 7, donc il y a deux semaines. Et il a été découvert au compte-gouttes, hein, au début, au compte-gouttes. Des gouttes de 80 monnaies,
voilà,
quand même.
Voilà, c'est relatif, oui.
C'est des grosses gouttes.
Jusqu'à ce qu'on trouve les 600 monnaies. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de belles découvertes dans les années qui arrivent, hein, y compris l'année prochaine, où on va se consacrer que sur cette épave. On va vraiment mettre toute notre énergie pour cette épave, parce qu'elle est vraiment couverte par un dépotoir qui est énorme, qui nécessite beaucoup de plongeurs, beaucoup de travail sous l'eau, qui est très physique. Après, ils vont témoigner. Et voilà.
Pour terminer l'émission, et avant donc de vous saluer, je vous propose d'écouter Louise Content, qui a participé elle aussi à ces fouilles de manière active. Louise Content est chef du département des collections et de la recherche au musée prestigieux, au musée national de la marine, musée qui a lui aussi une expertise reconnue dans le domaine de l'archéologie sous-marine. Et c'est pourquoi il a participé avec Louise à ces fouilles d'août à septembre et début octobre 2025.
National de la Marine. Le Musée National de la Marine, c'est 250 ans d'histoire maritime qu'on met en récit dans 7 sites. Et c'est aussi, depuis le 19e siècle, un organe de recherche. Voilà, François-Edmond Paris, qui était directeur et conservateur du musée, est considéré comme l'inventeur de l'archéologie nautique Et depuis, on essaye de poursuivre un petit peu voilà, cette tradition de recherche. Donc pour nous, le réseau et le partenariat avec le musée départemental de l'Arles antique et les fouilles du Rhône est très important puisque ça nous permet de poursuivre cette tradition, de mettre à disposition de la mission et des objectifs scientifiques des compétences qu'on a en interne et qu'on essaye de développer. Donc on est très heureux de pouvoir participer à ces fouilles. L'objectif peut-être à terme, ça sera de valoriser aussi les résultats en les mettant en récit au sein des musées, de nos musées. Donc moi je voulais vraiment remercier Romy, remercier les directeurs de l'opération et les partenaires pour cette très belle mission qu'on espère renouveler prochainement. C'est parti aussi d'une envie de travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est très important dans la recherche et au sein des musées de faire corps et de travailler ensemble. Voilà.